toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour?
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2, c'est la Voix du Mal qui commence. Suite aux nombreux retours après notre première émission, on avait envie de prolonger la discussion. On est donc de nouveau avec Karine et Jules de l'asso Poly Toulouse. Et cette fois-ci, on a pris le temps de co-construire la trame de cet échange. Bonjour.
Et bonjour.
Enchantée à Canal Sud.
On est revenu.
Le retour, quoi.
Aujourd'hui, on est revenu avec Karine pour vous réchauffer les oreilles. Et cette fois-ci, on a prévu une série de 4 émissions. Pourquoi 4? On veut vous proposer des clés de compréhension de soi, des autres, des dynamiques relationnelles et des outils pour explorer les relations romantiques non exclusives dans de meilleures conditions. Dans cette première émission, on va aborder la conscientisation et la communication dans les relations.
Dans la deuxième émission, nous parlerons plus des besoins, des biais et des dynamiques de pouvoir qui peuvent exister entre les partenaires. Puis nous évoquerons la jalousie dans la troisième émission. Et nous clôturerons cette série en parlant des rencontres et des séparations dans des schémas non exclusifs.
Aujourd'hui, on va donc parler de conscientisation et de communication dans les relations plurielles. Des relations qui sortent du modèle dominant du couple exclusif, mais qui ne sont pas pour autant des espaces sans cadre, au contraire. Comment fait-on avec les insécurités, les rapports de pouvoir, les dépendances affectives ou encore la difficulté à dire ce que l'on ressent ? Ça suppose deux choses fondamentales. Une conscience de soi, savoir qui on est, savoir mettre des mots sur ses émotions que l'on projette, et une conscience de l'autre, reconnaître son altérité, ses propres désirs, intérêts, son autonomie. Et entre les deux, il y a un espace fragile, celui de la communication. Pas seulement maîtriser les codes, mais être capable de dire, d'écouter réellement et accepter par moment de faire des consensus. Aujourd'hui, l'idée est d'explorer des pistes pour devenir plus lucide, plus honnête et peut-être plus libre dans notre manière d'entrer en relation avec les autres. Donc pour cette première partie de ce premier épisode de cette quadrilogie, alors on ne sait pas si ça existe mais c'est pas grave, c'est une quadrilogie d'émissions, la conscience de soi.
Mais v'là-t-il pas qu'autour de moi, on commence à parler tout bas. On laisse entendre, on fait comprendre que cet amour-là n'est pas pour moi. Qu'il est trop ci, qu'il est trop ça, qu'il est pas comme il faut qu'il soit. Que cet amour-là ne m'ira pas. Mais ça ne prend pas, j'aime mon amour et j'en décide. Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir? Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser. C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux, tant pis pour eux. J'aime mon amour et j'en décide. Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir? Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser. C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux, tant pis pour eux.
Quelles sont les différentes étapes de l'identification correcte du soi?
Déjà pour commencer, pourquoi ça, on commence par la conscience de soi? C'est quoi l'intérêt de parler de ce sujet? Parce que finalement, lorsqu'on est avec les autres, on nous apprend très peu le schéma qui permet d'être en pleine conscience de soi, et on a tendance à être beaucoup, à nous apprendre beaucoup les interactions avec les autres, on nous les apprend mal en plus. Et ça nous paraissait important de passer par les différentes étapes qui permettent d'être mieux dans les relations, à savoir la conscience de soi, la réalisation de soi et les interactions. interaction avec les autres. Donc la conscience de soi, c'est un vaste sujet. Hein. Il y a, je pense, des années et des années d'écriture, de philosophes, et on ne va pas être exhaustif aujourd'hui. On peut dire déjà qu'on est, nous sommes des êtres sociaux, culturellement construits. On a un canevas d'individus, le produit d'un environnement et d'une culture. Et notre image de nous, il y a à la fois la partie qui est idéalisée, la partie qui est réelle et finalement ce qu'on perçoit. Et donc pour commencer, on a voulu s'attarder sur une partie de la construction du soi qui sont finalement les valeurs auxquelles je tiens. Les valeurs, c'est un peu notre boussole globale. C'est ce qui sous-tend nos choix quand on arrive à les identifier. Et finalement, on ne nous invite pas souvent à le faire, à part chez le psy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit exercice pour savoir finalement les valeurs auxquelles vous tenez, chers auditeurs. On ferme les yeux et on imagine une personne ou une personnalité qui vous inspire. Quelqu'un où vous vous dites « Ah, cette personne, je vois en elle des qualités auxquelles j'ai envie de... vers lesquelles j'ai envie de tendre. » Et là, on peut imaginer les 3-4 valeurs que vous attribuez à cette personne. Une fois que vous avez fait ce petit travail d'imagination et que vous avez identifié les valeurs qui vous inspirent, on peut se poser la question, est-ce que vous retrouvez ces valeurs dans vos actions et vos comportements? Et on se rend compte qu'il y a un alignement qui est favorable pour le bien-être psychique lorsque nos comportements sont en accord avec nos valeurs. Voilà, c'était le premier petit exercice pour vous aider à voir si vous avez finalement déjà réfléchi à ce qui vous anime et le sens global que vous voulez donner à votre vie. Ensuite, pour... continuer, on peut parler de la représentation de soi-même. Donc finalement, comment je me représente, comment je me vois. Et là, j'aimerais vous amener une petite nuance. Est-ce que finalement, vous existez à travers vos possessions? Et souvent, on se rend compte que notre valeur, elle peut être indexée sur nos possessions matérielles, parce que je suis propriétaire, je suis ceci, cela. À travers notre rôle, notamment les rôles de genre, mais pas que. Les rôles de parents, les rôles dans la société. Est-ce que finalement, on existe à travers ces relations? Est-ce que nos relations sont des possessions? Est-ce que c'est ce qui définit notre valeur? Est-ce que c'est notre fonction sociale? La place qu'on occupe dans la société? Ou est-ce qu'on existe à travers notre histoire? Et finalement, l'enseignement, donc la troisième vague des TCC, dit « le possesseur n'est pas ses possessions ». Et donc, on invite à se détacher des possessions matérielles, de nos rôles, de nos relations, comme indicateurs de notre valeur.
Les thérapies cognitives et comportementales, qu'on appelle les TCC, ont été développées à partir du XXe siècle en 3 mouvements ou vagues d'intégration successives. La première vague de TCC, c'est la vague dite comportementale, car elle travaille sur les actions physiques. Elle s'appuie sur le modèle de Pavlov en remplaçant les comportements dysfonctionnels par de nouveaux comportements plus fonctionnels.
La deuxième vague de TCC, c'est la vague qui se concentre sur les pensées, sur nos actions mentales par comparaison à nos actions physiques. Cette deuxième vague intègre la première tout en l'approfondissant, car en amont de nos comportements se trouvent nos pensées. Nous agissons différemment en fonction de ce que nous nous racontons. C'est ce que Beck et Ellis ont développé en créant la restructuration cognitive. Avec la restructuration cognitive, on tente de remplacer les pensées dysfonctionnelles par des pensées alternatives plus fonctionnelles.
La troisième vague des TCC, depuis les années 90. Cette vague apporte un niveau de profondeur plus important encore que les deux précédentes. La question est désormais, mais qu'est-ce qui se trouve plus en amont encore des comportements et des pensées? Il se trouve la représentation que nous avons de nous-mêmes, la manière dont nous nous percevons. L'expérience de moi en tant que personne, moi, je, ce que je me raconte sur moi quand je pense moi. Par exemple, Julie se ressent comme étant une personne en manque de bien-être, en insécurité face à ses émotions fortes et sans valeur, donc indigne d'être aimée. C'est la représentation limitante que Julie se fait d'elle-même. Mais ça n'est pas qui est Julie.
Le travail sur la représentation de soi est primordial, car si la représentation que l'on se fait de soi est limitée, toutes les expériences, que ce soit les pensées, les émotions ou les comportements, produites par ce moi, seront par conséquent limitées. Et toutes les choses que l'on va mettre en place pour aller mieux, que ce soit des techniques psychothérapeutiques ou autres, pour diminuer la souffrance de ce moi, seront également limitées. Habituellement, quand nous pensons à nous-mêmes, en tant que personne, nous nous percevons comme étant en manque émotionnel de bien-être, de sécurité et de valeur. Ce sentiment de manque ou vide émotionnel est ressenti de façon plus ou moins intense en fonction des personnes, mais il nous amène à compter sur des conditions précises pour essayer de combler ce manque émotionnel ou au pire, ne pas aggraver ce manque. Tout ce qui est lié à nous avec un rapport de type « mon, ma, mien » devient un enjeu émotionnel en termes de bien-être, de sécurité et de valeur. Et plus l'intensité de cet enjeu est importante, plus nous nous identifions à cette possession.
Et donc, on se retrouve face à une vaste question de qu'est-ce qui donne ma valeur ? Et Frédéric Franget nous invite à peut-être indexer notre valeur sur d'autres choses que nos possessions et à reconnaître notre valeur intérieure parce que nous sommes des êtres vivants, finalement. Il y a trois axes sur lesquels on peut indexer sa valeur, qui est l'amour inconditionnel de soi-même, ou le self dans d'autres types de thérapie. Donc l'amour inconditionnel de soi-même, qui peut faire un tiers du job, juste l'existence en tant qu'être vivant. Le rapport aux autres, donc ce que les autres peuvent nous ramener comme valeur, pour un tiers, et donc pas la totalité. Et ensuite, notre sentiment d'efficacité, de finalement, la manière dont positivement on se présente aux autres et ce qu'on fait et qui nous donne le sentiment d'être efficace. La question, c'est de savoir finalement, qu'est-ce que je suis en dehors de mes relations romantiques ? Est-ce que toute ma valeur est indexée sur le regard de mes partenaires ? Ou est-ce que j'arrive à me trouver de la propre valeur en dehors des relations romantiques et sexuelles ?
On s'est aimé, deux ans d'ivresse. On s'est aimé, on s'est serré. On s'est donné tant de caresses. Je pourrais jamais les oublier. Puis alors que c'était si fort, puis alors que c'était si bon, on a vu remonter du fond les vieilles chansons. Les « je ne peux pas vivre sans toi », les « je ne suis rien hors de tes bras », les « avec qui es-tu resté », les « avec qui as-tu parlé ». Fallait tous dire, fallait se nier, fallait se lier, fallait se plier. J'ai senti que j'allais étouffer. Je me suis taillée, j'ai plus d'amour et j'en décide. Crois pas que je te regretterai pas, que je suis pas en bois. Mais je ne peux pas me faire à l'idée que l'amour soit fait pour m'écraser, que l'amour soit fait pour m'isoler, pour m'enfermer. J'ai plus d'amour et j'en décide. Crois pas que je te regretterai pas, je suis pas en bois. Mais je ne peux pas me faire à l'idée que l'amour soit fait pour m'écraser, que l'amour soit fait pour m'isoler, pour m'enfermer.
L'amour a une place assez spéciale dans nos histoires, en fait.
C'est un endroit où il y a énormément de choses qui se jouent, mais parce qu'on est aussi dans une culture qui met au centre l'amour romantique. Et ce qu'on avait déjà exprimé, c'est que finalement, ça, c'est aussi une construction. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un lien qui est particulièrement important, expérimenté dans une vie, et en même temps, on a construit une culture autour, ce qui centralise l'amour romantique. Et qu'on peut, en fait, et même dans les relations plurielles, on peut inviter à ouvrir et avoir plutôt un maillage dont les relations romantiques peuvent faire partie, mais pas obligées. On n'oublie pas qu'il y a quand même tout un spectre de personnes aromantiques pour qui ça n'a pas beaucoup de sens.
Je n'ai jamais ressenti dans ma vie une attraction romantique. Sociétalement, ça a été dur à porter, en fait, de sentir la différence, de me dire « et pourquoi moi, j'y arrive pas ?» Il y a eu toute une période de ma vie où je me suis forcée. Je me suis forcée parce que le regard des autres, moi finalement j'ai toujours été bien en tant que célibataire, mais le regard des autres m'a poussée à me forcer, à me mettre dans des situations qui étaient violente, parfois, je vais le dire, foncièrement violente, hein, surtout quand on cherche vers des relations hétéros. Et ça a été un coup émotionnel, un coup financier aussi, de m'investir comme ça. Et en même temps, je voyais bien que une des raisons pour lesquelles je me poussais à être en couple, c'est que la vie en tant que célibataire est compliquée. Elle est compliquée à la fois, donc on l'a dit, tout ce qui est ce qu'on appelle le single shaming, donc le fait qu'on nous fasse sentir comme étant moindre quand on est célibataire, le fait en fait d'être humilié constamment avec les plein de petites réflexions qui vont que toutes les personnes célibataires ont déjà connues. Bon alors, c'est pour quand t'as trouvé quelqu'un, c'est toujours la première question quand on voit des amis, comme si c'était la chose la plus importante. Et puis après, il y a le coût de l'immobilier, le coût des vacances. Et d'ailleurs, l'INSEE l'a montré, ça coûte 1,5 fois plus d'être célibataire que d'être en couple. Il y a aussi des personnes qui ne choisissent pas le célibat parce que elles valent pas grand chose sur le marché de la bonne meuf, comme dirait Virginie Despentes. Le mot amoureux est aussi un mot très récent. Avant ça voulait juste dire être aimable, et puis après ça voulait dire aimer quelque chose. Mais on pouvait être amoureux d'art, d'ailleurs on a toujours cette expression qui reste, et être amoureux de personnes romantiquement ou pas. Donc tous les mots qu'on a en fait sont hyper récents, parce que c'est l'idée de ce sentiment de cette est récent. Et quand on va dans la Grèce antique ou la romantique, c'était hyper mal vu. C'était vu comme étant vraiment victime de ses émotions, comme étant faible. On disait que ça amollissait les citoyens. Donc il y avait vraiment quelque chose. Bien sûr, c'était pensé uniquement au masculin pendant très très longtemps, mais c'était pas quelque chose qui était valorisé. Et surtout, c'était pas. On se disait pas que toutes les personnes allaient tomber amoureuses entre l'âge de 18 et 30 ans. Rien avant, rien après. Voilà. Et puis après, on reste ensemble pour le reste de la vie, et puis on est attiré par personne d'autre. Il y a un truc un petit peu lunaire de se dire que tout le monde devrait le ressentir pour une seule personne, un peu tout le concept de l'âme sœur. Quand on commence à y réfléchir, on se dit « bah oui, non, mais c'est pas crédible cette histoire. Bien sûr qu'on n'est pas naturellement construit pour tomber amoureux d'une seule personne. »
Et donc, on peut essayer d'identifier les activités, les passions, les pensées ou les émotions qui existent indépendamment de nos rôles sociaux ou romantiques, et de voir ce qui nous nourrit profondément, humainement. Et ça va permettre de développer une image de soi qui est plus autonome, qui ne dépend pas que de la validation des autres. Qu'est-ce qui se passe dans les relations sexo-affectives quand notre valeur ne dépend que de la validation des autres? C'est qu'on est en permanence attaché à ce regard, et que nos actions ne sont plus guidées par ce qui nous anime personnellement, mais parce qu'on veut correspondre à l'image, à une image, qu'on veut correspondre à ce que l'autre, à ce qu'on veut renvoyer aux autres. Et on perd de vue notre alignement avec nos valeurs propres. À travers de quoi peut se développer cette image de soi autonome? À travers des expériences positives qu'on réalise dans la vie, à travers la capacité à réguler nos émotions. La reconnaissance par les pairs fait partie intégrante, mais ne doit pas être exclusive. Et des feedbacks, à la fois des proches, mais feedback non pas comme validation, mais feedback comme capacité à se réguler avec les autres.
Pourquoi est-ce qu'on est, depuis 150 ans, disons, autant obsédé par le sentiment romantique? En fait, il y a eu tout un travail de création, tout un processus, en fait, sur le long terme, qui nous a permis d'arriver là. Et notamment, le sentiment romantique et l'injonction romantique, surtout, elle est apparue au moment où la religion, telle qu'on la connaissait avant, déclinait. Et donc on a vraiment eu un mécanisme de balancier pour comprendre comment le couple s'est à ce point imposé. Effectivement, suivre la comparaison du couple et de la religion et de ses mécanismes et de l'euphorie qu'il peut créer et de la dépendance qu'il peut créer et de l'espoir que ça va nous apporter salut et prospérité à tout jamais, tout ça c'est très pertinent. Puis il y a aussi autre chose, c'est le fait que, donc il y a à la fois comprendre que le couple c'est une mini-religion de deux personnes et dans laquelle on met tous ses espoirs, et que l'amour romantique, c'est aussi une religion globale. Désormais, on va l'attendre de l'amour, on va se dire, c'est ça qui va me permettre d'être heureuse dans ma vie pour toujours. Et donc, on est sur les mêmes mécanismes, parce qu'on va avoir des personnes qui vont prêcher la bonne parole. La majorité des gens le font, bien sûr, sans s'en rendre compte, notamment à travers la création culturelle.
Donc, une fois qu'on a un peu balayé qui on est en dehors de nos relations romantiques, on peut se poser la question de ce qu'on souhaite vivre dans nos relations et réussir à retrouver sa propre norme. Je parlais sur la première émission de la notion d'autonormie. Et donc on peut se poser la question de ce qu'on souhaite vivre dans nos relations quand on n'est plus totalement dépendant de l'image que l'on a dans ces relations. Et qu'on peut faire du coup nos propres choix. Et c'est à la fois se sortir du regard des autres, mais c'est aussi se sortir du regard de la société, puisque c'est les matrices normatives qui vont construire nos désirs. Je pense que là-dessus, les analyses féministes et queer peuvent nous apporter énormément. Et sortir de la norme, c'est d'abord se retrouver soi pour reconstruire un ensemble de normes qui nous correspondent et dans lesquelles on veut s'intégrer. Est-ce que, par exemple, une culture du consentement, ça peut être un ensemble de normes dans lesquelles on se retrouve? Le fait de vouloir des relations dénuées de violence, vouloir des relations où les personnes peuvent être pleinement elles-mêmes. Voilà, des pistes pour reconstruire une matrice normative. Je viens de lire le livre de Pierre Niedernand et ça m'a beaucoup parlé justement sur la question des normes et d'où, par où elles sont produites. Et donc voilà, une fois qu'on a un peu ce canevas et cet environnement de pensée, on est peut-être plus à même de se questionner sur les raisons de nos choix et de ce qu'on veut vraiment vivre dans les relations.
Alors ces questionnements, souvent, ils s'accompagnent d'un certain inconfort, car c'est jamais très très agréable de se regarder de près et d'aller farfouiller dans nos petites faiblesses, dans nos petits inconforts, dans nos petites vulnérabilités aussi. Mais en fait, c'est en prenant conscience de tout ça qu'on va pouvoir apprendre à mieux se connaître et aussi pouvoir anticiper, prévoir et communiquer sur ce qu'on ressent, sur ce qui nous fait peur, et pouvoir mettre en place une bonne communication, des stratégies aussi pour se sentir bien avec soi-même et se sentir bien avec les autres, et aborder au mieux les difficultés qui vont se présenter, parce que on n'évitera pas les difficultés. L'idée, c'est d'arriver à les gérer au mieux sans nous mettre dans la panique.
Je dors toute seule, tout est tranquille. Je dors toute seule, c'est pas la joie. Je dors toute seule, c'est pas facile. Mais je tiens tête et je me bats. Oui, j'en ai eu marre du cafard qui venait m'attendre le soir. Marre de crâner, marre d'en crever. Je me suis relevée, je me suis relevée pour regarder tous les regards des beaux gaillards, les étourdir droit dans les yeux, laisser venir ouvrir le jeu. Tant de douceurs insoupçonnées, tant de tendresse à savourer, tant de saveurs à savourer. Je voulais goûter, j'aime mes amours et j'en décide. À moi la désir, à moi de saisir, à moi de séduire. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour me manquer. C'est bien trop bon, c'est bien trop gai pour s'en priver.
En fait, l'amour romantique, c'est clairement une construction sociale et culturelle qui s'est imposée, particulièrement depuis la fin du XXe siècle, qui se répand un peu partout dans le monde. Il peut même être vu comme une idéologie, parce qu'il a tout un patrimoine culturel, des représentations, des valeurs, des croyances, et notamment avec cette idée que tomber amoureux, bah, ça peut pas être un choix, que c'est pas rationnel. C'est vraiment une image qui est véhiculée très fort dans plein d'œuvres pop culture, et je suis sûre que vous entendez beaucoup ça autour de vous, et peut-être que vous aussi vous vous dites ça. Je crois que c'est le truc qu'on se dit le plus en fait, que l'amour ça se contrôle pas, que ça te tombe dessus. Sauf qu'en fait ça, bah, c'est juste notre mythologie de l'amour. On est traversé par des schémas qu'on croit spontanés alors qu'ils sont profondément culturels, et en fait ça vaut largement pour l'amour. Forcément, l'amour c'est pas vraiment spontané. Roland Barthes, il disait même que c'était avant tout une narration, un texte que on écrit, mais en s'inspirant du coup des autres textes. On s'identifie à des modèles amoureux qui sont issus de notre culture, donc de notre mythologie, comme je viens de dire, de nos mythes populaires. Et tout ça, ça va façonner nos attentes, nos comportements. Et puis, bah, quand la réalité est pas pareille que cet idéal, c'est la frustration. Mais pour beaucoup, l'amour et les gestes d'amour, ça serait les manifestations les plus naturelles de l'être humain. Sauf que, comme on dit, la nature de l'être humain, c'est la culture. Et pour tout vous dire, il n'y a pas beaucoup d'instinct chez l'être humain. On a quelques besoins primaires que si on les assouvit pas, on meurt. Et on les assouvit, ces besoins, de manière culturelle. C'est pour ça qu'on fait les mêmes choses, mais pas tous de la même façon selon la culture. Et dans nos sociétés, l'amour, particulièrement la séduction, ça prend quand même aussi des tournures de commercialisation de soi. Et on vit dans une société capitaliste, donc
c'est logique. Et le lien entre amour et consommation, il est trop intéressant, parce que au-delà du fait qu'il reflète juste le système dans lequel on vit, bah, sur le plan purement biologique, les débuts d'une histoire d'amour, ça active le circuit de la récompense, de l'addiction, qui envoie de la dopamine, donc l'hormone du plaisir au cerveau. Et en fait, la consommation, c'est un phénomène qui active exactement le même circuit. Sauf que, bah, bien évidemment, au bout d'un moment, ça s'arrête. Quand je dis un moment, apparemment, ça peut aller de quelques heures à 3-4 ans. Et les circuits hormonaux, ils reviennent à la normale. L'état hormonal amoureux est terminé. Ça veut pas dire que l'amour est terminé du tout, mais la sensation que ça nous fait et que du coup on a associé à l'amour dans notre imaginaire de la passion et tout, et ben ça s'arrête.
Quelques saisons, quelques semaines, je tournoyais de bras en bras. Quelques saisons, je me promène et ça me mène de toi. D'abord on s'y attendait pas, et puis voilà que ça dure des mois passés sans se lasser, de s'enlacer. C'est si léger de me réveiller de jour en jour à tes côtés. On le sait bien ce qui nous tient, on le sait bien, ne jure rien. On est déjà assez piégé par des images toujours brisées. Alors maintenant je crois ce que je vois, je crois ce que j'ai, et c'est l'amour qui en décide. Bien sûr, tout peut encore changer, qu'est-ce qu'on en sait. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour me coincer. Je veux aimer, être aimé en liberté. De toute façon, l'amour décide. Demain, tout peut encore changer, qu'est-ce qu'on en sait. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour me coincer. Je veux aimer, être aimé en liberté.
On est, comme tu l'as dit, des êtres situés, des êtres sociaux et des êtres perclus par les normes. Donc notre approche, notre imaginaire va être aussi conditionné par cette construction. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut chacun, chacune, faire notre part en fait, de réflexion autour de l'influence du genre, hein, norme genrée, quoi, mais vraiment réfléchir à comment peut-être s'en défaire, en tout cas voir l'influence majeure que ça a sur notre réflexion et notre approche à l'autre. Quoi.
Bah, tout à fait. On voit par exemple que, je fais une généralité, les hommes ont moins accès au soutien et à une intimité émotionnelle. Parce que leur éducation fait que ce sont des choses qui vont apprendre à taire très jeune, là où on va apprendre aux petites filles à taire plutôt leur côté très expansif, être et aventurier, pour être douce et à l'écoute et prendre soin des autres. Et on va encourager en fait ces autres qualités chez les petits garçons, mais pas faire preuve de vulnérabilité. Et ces choses-là, en fait, on grandit avec depuis qu'on est bébé. On se construit avec, et c'est renforcé par, par toute la culture, c'est renforcé par le milieu familial, par l'école, par la télé, le cinéma, la musique, la littérature. Les mythologies, tout à fait. Et en fait, on va se retrouver à se débattre entre ce qu'on perçoit de nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément déjà très simple à identifier, le rôle qu'on nous a imposé, qui peut commencer à nous gêner un petit peu, qui va commencer à nous limiter. Et donc, il va falloir aller gratter un petit peu pour faire la part des choses entre ce qui nous est imposé par notre construction sociale, ce qui est attendu de nous par la société, et ce qu'on ressent vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et ça va créer des difficultés très différentes en fonction de si on a été éduqué comme une petite fille ou un petit garçon. En tant que petite fille, petite fille ayant grandi, il va falloir aller chercher la confiance en soi, la capacité à oser, à prendre de la place, à s'affirmer. Là où quand on a été élevé comme un petit garçon qui est devenu un homme, il va falloir aller chercher la capacité à montrer ses émotions, être vulnérable, les identifier et aussi prendre soin des autres, être aussi là en soutien et pas attendre le soutien.
Parce que si l'amour semble être une affaire privée, au final, c'est profondément social. Et c'est vraiment intéressant de se demander comment ces histoires d'amour reflètent finalement nos normes sociales. Ça montre tout un tas de modèles qui définissent très clairement les rôles des amoureux. Et vous vous en doutez, les rapports de genre sont particulièrement intéressants lorsqu'on se penche sur la question de l'amour. Dans les relations hétéronormées, donc celles qui sont le plus étudiées, il y a des attentes et des rôles qui sont très genrés. Par exemple, sur la question de la communication, qu'on dit pourtant fondamentale en amour, en couple, bah ça c'est très asymétrique parce que les femmes elles sont socialement plutôt conditionnées à exprimer leurs émotions ouvertement et à écouter plus attentivement et à valoriser leur engagement relationnel, émotionnel et tout, tandis que bah, les hommes ils sont beaucoup plus encouragés depuis l'enfance à être dans la retenue émotionnelle, aussi à privilégier leur autonomie, leur indépendance. D'ailleurs, ils expriment pour bon nombre d'entre eux une vraie difficulté à partager leur vulnérabilité et elles, le fait qu'elles se retrouvent à prendre pas mal en main la charge affective de la réussite du couple. Et ça, en fait, ce sont des rôles sociaux attribués à chaque genre, mais en dehors des histoires d'amour, mais qui, du coup, s'y retranscrivent aussi. Car malgré tout, les relations amoureuses ne sont pas exemptes des dynamiques de pouvoir qui existent dans la société. En ce sens, l'amour, ça serait même un peu politique.
Qu'est-ce qui me donne de la valeur ? Donc on l'a déjà abordé, mais notre valeur est souvent aussi associée à notre manière de se conformer au rôle genré. Et que du coup, c'est très difficile de jauger de sa propre valeur de manière interne quand on nous a appris que on était aimable, si on est une assignée femme, on est aimable quand on prend soin des autres, quand on est dans le lien, quand on est dans le care. Du coup, si on n'a pas envie de faire ça, et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir envie, à nouveau, quelle est notre valeur ?
Oui, et symétriquement pour les hommes, où la valeur est mise sur la force, le pouvoir, la richesse, le côté infaillible, inébranlable. Et si on a envie d'exprimer nos émotions, on le met ça où ?
Et du coup, est-ce qu'on a encore de la valeur en tant qu'homme ?
Exactement.
Donc ces stéréotypes, ils font beaucoup de mal à la fois dans les relations interpersonnelles. Ça fait du mal au niveau sociétal, évidemment. Là, on est sur l'analyse féministe auquel on se rejoint.
Et puis, ça va venir du coup aussi jouer dans nos relations romantiques, amoureuses, sexuelles, parce qu'on a appris à performer des rôles au sein de ses propres relations. Et arriver à comprendre ça, ça peut être très, très inconfortable et très challengeant.
Là où c'est intéressant dans les relations plurielles, si on revient sur la question des relations plurielles, c'est que le fait d'avoir justement plusieurs relations peut permettre d'exprimer plusieurs facettes de soi. Et qu'en fait, comme on est sur des dynamiques interpersonnelles, avec chaque personne avec qui on interagit, ça peut être en groupe évidemment, mais du coup on va pouvoir peut-être explorer d'autres facettes de soi qu'on n'explore pas avec une personne, mais qu'on peut explorer avec d'autres. Parce qu'il y a l'espace, parce que la dynamique n'est pas la même. Et je trouve que ça c'est assez intéressant, notamment par exemple pour les couples monogames qui s'ouvrent, et puis qui vont se rendre compte que... ça fait des années que on est dans l'expression du rôle de parent, de couple cohabitant, etc. Et qu'en fait l'ouverture, quand elle se passe bien, peut amener à ouais mais en fait je suis pas que ça. Et en fait quand je suis avec tel autre partenaire, je peux exprimer, j'en sais rien moi, je suis une domina et j'aime soumettre d'autres personnes. Ou alors, je suis hyper sportive, et puis avec tel autre partenaire, je vais aller me dépasser d'un point de vue sportif. Et en fait, la pluralité des relations va pouvoir permettre d'ouvrir des possibles qui dépassent les rôles de genre qui peuvent être attendus dans le couple traditionnel.
À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. De maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme. Que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent. toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. L'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Interdite. Aimer sans amour.